Et bonjour, une nouvelle émission de « Et si on en parlait ?». Alors aujourd'hui, et je suis passé au studio, prendre les micros et je suis monté en voiture. J'ai pris la direction de Cordes-sur-Ciel et à Cordes, j'ai tourné à droite sur une vingtaine de kilomètres et je suis arrivé à Castelnau de Montmiral. Là, je suis invité au restaurant Le Ménagier, place des Arcades, 05 63 42 08 35 et je suis invité par Gérard et Valérie Garrigue dans ce magnifique village, ce magnifique restaurant. On me fait visiter et je me rends tout de suite dans la cuisine. Je m'approche de Valérie, la patronne. Bonjour Valérie. Bonjour. C'est quoi le menu d'aujourd'hui ?
Aujourd'hui, au menu du marché, puisque tous les midis, on a un menu un petit peu plus du jour, sur les produits du marché. On a une salade aux herbes sauvages. Donc ça, c'est nos petites cueillettes du week-end, puisque nous, on était en week-end mardi, mercredi. Donc on retrouve de la mâche, de la cressonnette, de l'oseille, toutes ces petites salades qu'on a cueillies au bord des prés, sur les talus, au bord des lavoirs. Et on l'accompagne d'un boudin galabar grillé. Donc le boudin, c'est nous qui l'avons fait lors de notre menu tu cochon. On a gardé des boudins galabar et ils sont délicieux. Et en deuxième entrée, on a un bouillon de viande pour finir l'hiver, un petit bouillon de viande et des ravioles de champignons. Le plat de poisson, ce sera du cabillaud, des beaux cabillauds frais avec des endives aux agrumes. Et en plat de viande, une plouma de porc ibérique aux légumes d'hiver glacés. Et en dessert, des fruits pour repartir à 14h, bien rempli d'énergie au travail.
Qui c'est qui décide les menus ?
Gérard, et puis aussi moi, suivant un
peu. J'ai appris que c'était votre employé quand même, en plus.
Oui, mon employé, mon mari.
Oui. C'est pour les pots de beurre. Comme ça, mais quand tu as une sauce à faire, tu mouilles avec ça, c'est mieux que
rien. Je suis à côté de Gérard,
oui.
Garrigue donc,
oui.
Dans la cuisine. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à manger aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on est dans une période là où on est en transition. On n'a pas encore tous les produits du printemps, mais on commence à en avoir quelques-uns. Et on quitte l'hiver. La saison, la truffe, toutes ces choses-là. Mais il nous reste encore des choses d'hiver et quelque chose du printemps. Donc là, on a commencé par faire un petit bouillon pour midi, dans lequel on va mettre un petit raviol de champignons. On cuira le raviol à la minute et on mettra avec le bouillon. Dans le bouillon, ça me sert en même temps aussi pour toute ma cuisine, quand j'ai des choses à mouiller. J'ai toujours un petit bouillon fait avec de la poule, de la queue de bœuf ou de la queue de bœuf. Comme c'était autrefois, on avait le bouilli. Qu'on appelait. Et dans le bouilli, ça sert pour faire, si on a des potages, si on fait un potage cressonnière ou quelque chose, on a toujours un petit bouillon qui est mieux que de l'eau.
Alors, toutes ces recettes, ça vient des origines à la guépie ?
Il y en a quelques-unes, comme ça vient des origines avéronaises, un peu, le bouilli. Mais oui, parce que moi, je suis tout à fait d'origine avéronaise. Hein. Je suis né à la
Guépie. On peut se tutoyer, ça ne dérange pas. Donc, tu es né à la Guépie ?
Oui, je suis né à la Guépie, dans la rue du Barry, à 1600 mètres de la borne départementale. Et d'origine avéronaise, du côté de mon père et de ma mère.
D'accord, et après. Bon, on en parlera tout à l'heure. Oui. Tu as fait plus ou moins tes classes après sur Paris.
Oui, après j'ai fait l'école hôtelière comme beaucoup de jeunes à l'époque. Et ensuite j'ai fait mon petit tour de France. Je suis passé par la Savoie, Paris. Après je suis redescendu Biarritz, Toulouse. J'y suis resté quelques temps. Après j'ai essayé l'Amérique pour gagner des sous. Mais j'avais pas les papiers, donc je suis revenu. Et puis je me suis installé à Paris pendant une quinzaine d'années, où j'ai travaillé pendant 13 ans avec Alain Dutournier. Alain Dutournier, au Trou à Scone d'abord, en 80, jusqu'en 93, avec ensuite je l'ai aidé à ouvrir le Carré des Feuillants. Donc j'étais son bras droit. Et puis ensuite j'ai décidé, comme me l'avait édicté mon rêve d'enfant, d'ouvrir mon pastel à Toulouse. Et voilà, et puis bon, j'ai gardé le pastel 13 ans, et puis j'ai vendu les murs, pas le restaurant, parce que je préférais ne pas vendre le restaurant, je préférais vendre les murs. J'ai vendu les murs, et puis j'ai continué encore un peu à Toulouse en créant une cafétéria gastronomique au Muséum d'Histoire Naturelle, et qui s'appelait le Moai. Donc ensuite, ça a été repris par mon équipe. Et maintenant, j'ai décidé de me rapprocher, comme les vieux cerfs, de mon lieu de naissance.
Comme les saumons qui remontent à leur lieu de naissance.
Voilà.
Et donc là, tu as monté ce restaurant à Castelnau.
Castelnau de Montmiral.
De Montmiral.
Alors, il faut que je fasse une justice. Ce n'est pas moi qui ai monté, c'est mon épouse. D'accord. Et elle a été quelque temps mon employée. Aujourd'hui, je suis son employé.
D'accord. Voilà.
Mais donc, je suis devenu ce pourquoi j'ai fait ce métier, c'est-à-dire cuisinier, plus restaurateur.
D'accord. Et ce restaurant s'appelle comment alors ?
Alors, ça s'appelle Le Ménagier.
Ça vient de quoi, ça ?
Le Ménagier, ça vient d'un livre du XIVe siècle qui avait été écrit par un riche bourgeois pour sa jeune épouse qui était noble mais qui ne savait rien faire. Donc, au bout d'une semaine de reproches, elle lui a dit « Mais t'as qu'à m'écrire ce que je dois faire, comme ça, tu arrêteras de me faire des reproches. » Donc, il y a fait un manuscrit qui inclut à peu près plein de choses, puisque c'est un traité de morale économique et domestique. Donc ça traite aussi bien de comment on gère le personnel, comment on se tient en communauté, comment on cultive son jardin, où on va faire son marché, et bien sûr quelques recettes de cuisine. Mais c'est avant tout un état d'esprit, c'est-à-dire qu'on se retrouve, c'est plus seulement un restaurant, c'est un lieu de partage, et c'est un lieu où... Peu importe ce qu'on en pense, mais nous, en tout cas, on le vit comme un ménage.
Voilà. D'accord. Est-ce que c'est un petit peu un rapport avec Gargantua et tous les cuisiniers de l'époque, Grand-Gosier, tout ça ?
Non, pas trop. Non, pas trop.
Est-ce qu'il y a des recettes de l'époque ?
Il y a des recettes de l'époque, oui. C'est contemporain. En fait, cet homme-là, qui devait être un intendant du roi, mais qui n'était pas noble, dont il n'a rien signé, hein, puisque c'était pour sa maison, Il avait en fait repris quelques recettes qu'on retrouve dans le viandier de Taillevent. Et ils étaient contemporains, puisque le viandier de Taillevent date de 1394 ou 12, et lui, le manuscrit a été écrit aux environs de 1393.
D'accord.
Voilà.
Alors, combien vous êtes en cuisine ?
Alors, nous, en cuisine, on est trois. Il y a Julie et Étienne.
Je leur demanderai un petit mot tout à l'heure.
Voilà.
Et au total, dans le restaurant,
il y a Valérie. Alors, il y a Valérie qui, lui, s'occupe... s'occupe de tout le service et l'intendance de la maison. Et en cuisine, on est, c'est exagéré, quoi. Mais bon, on est trois et elle est toute seule.
Oui.
Mais ça va, ça se passe bien.
Mais après, en été, il y a plus
voilà.
de personnes.
Alors, en été, par contre, on monte jusqu'à 5-6 en cuisine. Cet été, en tout cas, l'été dernier, on n'était que 5. Et en salle, pareil, à peu près, il va y avoir 5 personnes en salle du mois de juillet jusqu'au mois de fin septembre, mi-septembre, disons.
D'accord. Bon, je vais demander 2-3 questions
oui
aux employés.
Oui, oui.
Alors, et puis, on se revoit tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Alors, juste une petite question.
Oui.
Vous êtes deux à aider Gérard.
C'est ça.
Alors vous appelez comment ?
Étienne Zuravski.
Qu'est-ce que vous faites ? Je ne prends pas trop de temps parce que c'est un plein service.
Donc moi techniquement, on est censé être tous les deux chefs de partie.
Ouais.
Moi je suis aux entrées et au dessert.
D'accord.
Et Julie, elle aide le chef pour l'envoi du plat principal.
Le chef n'est pas trop dur ?
Non.
Ça se passe bien ?
Non, oui, c'est un très très bon chef. C'est une très bonne équipe, un très bon chef, tout se passe très bien, une bonne ambiance. Ça, c'est rare de tomber sur des ambiances comme ça en cuisine, donc c'est parfait.
Bon courage.
Merci beaucoup.
Vous êtes en plein service en plus. Et je veux voir l'autre dame. Vous appelez comment ?
Julie Torijos.
Et alors, là, c'est en plein service, je ne vous dérange pas longtemps, vous faites quoi ?
Oh, je m'occupe un peu de tout, tout ce qu'il y a à faire, je fais. Voilà, il n'y a pas de poste déterminé, mais faut être chaud, faut être franc.
Il y a
franc.
Beaucoup de choses à faire.
Un petit peu, ça va. On a quoi de s'occuper, non, c'est bien. Ouais, non.
Je ne vous dérange pas plus parce que c'est un plein service.
C'est gentil, merci.
De nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourri, et les pieds à dévorer et pourrir, de nous les eaux de fenon, cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en dit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Si frères vous clamons, point n'en devez avoir dédain, quoique fume Zoxy par justice. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens facile. Excusez-nous, puisque sommes transis, envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre. Nous sommes morts, amène-nous à vie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a débué et lavé, et le soleil desséché et noirci. Puis corbeaux nous ont les yeux cavés et arrachés la barbe et les sourcils. Jamais ni le temps nous ne sommes assis, puis ça, puis là comme le vent varie. À son plaisir sans cesser nous charrie, plus becqueté d'oiseaux que des accoudres. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus qui sur tous a maîtrise, garde qu'enfer n'est de nous seigneurie. Garde qu'enfer n'est de nous seigneurie. À lui n'ayons que faire, ne que soudre. Hommes ici, point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
Alors là, Valérie, il y a plein de clients, ça marche super.
Oui, 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 oui.
Ils sont très contents en plus.
Oui, oui, c'est toujours agréable.
Ils aiment beaucoup la coquille Saint-Jacques.
Oui, c'est vraiment étonnant parce que d'habitude, le midi, c'est plutôt des menus plus simples. Et là, les gens, on est venus pour les coquilles. D'accord, sûr. D'accord.
Le pain aussi est excellent.
Oui, c'est un pain un peu rustique, mais qui est très bien fait avec une pousse en 18 heures. Et on le prend à la Gaillac, à la boulangerie Chavannes.
Super, je vais vite, sans déranger, je vais aller voir le chef. Je m'approche, je suis dans la cuisine. Je ne veux pas le déranger parce qu'il est en plein boulot, Gérard. Alors là, c'est quoi que tu fais là?
Là, c'est la plouma de porc ibérique qu'on va servir avec des légumes en cocotte, mais glacés un peu, des pommes de terre, des petits piments padron. Et on va servir ça avec le petit jus de la plouma, juste tout simple. Voilà.
Ce qu'on mange jusqu'à présent, c'est excellent.
Merci.
Il y a plein de gens. Super, l'ambiance est bien, les gens sont contents.
Oui, oui, c'est ça, bien. A l'air.
C'est ce qu'il faut. À tout à l'heure, je te dirai le petit.
Allez, à tout à l'heure.
et je me retiens.
C'est la pause avant de reprendre ce soir.
Tout à fait, c'est le moment pour se délasser avant de repartir travailler. Mais c'est bien, ça va permettre de rebooster les batteries et d'être prête pour ce soir.
Et ce soir, tu m'as dit que c'était la sol.
Ce soir, oui, sol à la carte. Pour l'instant, je ne sais pas comment on va la faire, c'est une surprise. Donc d'abord, il faudra l'habiller, l'ébarber et la désarrêter et on verra après. Voilà.
Donc tout va bien, quoi.
Tout va bien.
C'est le bonheur.
C'est le bonheur, tout va bien, oui, oui. Non, c'est vrai qu'on se fait plaisir avec les produits qu'on a, donc c'est l'essentiel, oui.
Ben, merci et bonne pause.
Merci, c'est gentil.
Eh bien, j'allais dire, le spectacle est fini. Est-ce qu'on peut parler de spectacle pour un repas? Alors, il faut que je me souvienne, au Ménagier, donc, à Castelnau de Montmiral, chez Gérard Garrigue. Est-ce qu'on peut parler d'un spectacle?
Non. Non, pour que ce soit un spectacle, il faut que ce soit spectaculaire. Mais non, c'est une tranche de... on a passé une tranche de vie.
Hein, comment se construit un repas?
Ben, un repas, ça se construit d'abord... quand je commence à faire un menu, je prends une feuille blanche, je mets les produits de la saison, les accompagnements qui peuvent aller avec, et ensuite, j'essaye de composer à partir de là un menu en faisant en sorte de ne pas retrouver dans aucun des plats des choses qu'il y a pu y avoir dans le plat d'avant. Par exemple, aujourd'hui, on a mangé une petite salade. Voilà, l'idée, c'est la composition spontanée. Hier, on est allé voir si le cerfeuil avait poussé. Il avait poussé, c'est du cerfeuil sauvage. J'ai regardé s'il y avait déjà de l'oseille sauvage, il y en avait. Donc j'ai dit, je vais ramasser l'oseille sauvage. Il y avait de la mâche, on a ramassé de la mâche. Et avec ça, on a composé le menu d'aujourd'hui. Bon, sachant que quand même, on avait le boudin qu'on avait fait nous-mêmes. À partir de là, je trouvais que c'était tout simple. Faire une salade de ce qu'on a ramassé avec le boudin qu'on a fait, déjà, c'est quand même important parce que tout ça, ça sort de nous-mêmes. Donc déjà, il faut bien penser qu'une cuisine, ça doit être un menu, ça doit être l'expression de soi-même. Donc ce n'est pas une représentation, c'est une expression.
Mais par contre, c'est un peu comme nous, quand on fait de la musique, on fait des arrangements. On a le thème, mais après, on fait l'arrangement, c'est-à-dire, ce que tu dis, composer.
Oui, bien sûr. Mais moi, si je compare à la musique, en fait, la musique que j'aime beaucoup, en dehors de la musique avec des paroles, ce que j'aime beaucoup, c'est le jazz. Parce que le jazz, on part avec des éléments, des accords. Et après, à nous de savoir construire à partir des accords quelque chose d'harmonieux. Et bien, la cuisine, c'est exactement comme ça. En fait, tu prends les accords, c'est-à-dire tes produits, et après, à toi, c'est ton expression, c'est ta personnalité qui va mettre là-dessus les harmonies. Et l'harmonie, tout d'un coup, et tout à coup, ça, c'est le partage avec les autres, et tout à coup, la cuisine, elle prend son sens. Parce que la cuisine, c'est pas quelque chose qu'il faut pas l'imaginer comme quelque chose qui se vend au départ. La cuisine, c'est fait pour quelqu'un. Donc, elle est faite pour les gens qui sont supposés t'aimer. Ceux qui t'aiment pas, ils aimeront pas ta cuisine. Ou alors, ils apprendront à t'aimer à travers ta cuisine.
Est-ce que c'est possible que, par exemple, tu aies des ingrédients et que d'un jour à l'autre, tu fasses pas du tout la même chose avec les mêmes ingrédients?
Oui, parce que ça sera la façon de le faire, ça vient avec le temps qu'il fait, l'humeur du jour. Est-ce qu'on est gai? Est-ce qu'on l'est pas? Est-ce qu'il fait soleil? Est-ce qu'il le fait pas? Est-ce que t'as froid? T'as pas froid? T'es fatigué? Donc tu fais pas la même chose. C'est pour ça qu'on est. La cuisine, ça doit être comme c'est un acte d'amour. Il peut y avoir du désamour dans ce que l'on fait tous les jours.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours et les années,
Ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires, à ne plus que savoir en faire, s'ils ne vous tournaient pas la tête. Que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver?
Quel est le plat que tu aimerais faire et que tu n'as jamais fait encore?
Le plat que j'aimerais faire, que je n'ai jamais fait. Ça, c'est compliqué. Hein. En fait, la cuisine, c'est difficile parce que je ne vois pas un plat en poisson. J'ai fait à peu près tout. En viande, je crois que j'ai touché un peu à tout. Après, la façon de faire... Je n'aime pas faire, par exemple, des plats qui ne me ressemblent pas. Ça veut dire que forcer le trait, si ce n'est pas ma personnalité, je ne vais pas le faire. Par exemple, demande-moi de faire un plat indien. Je n'ai jamais fait, je ne vais pas le faire. Parce que je n'ai pas envie de faire, ni de galvauder la cuisine indienne, ni même moi, de me déformer pour faire quelque chose que je ne sais pas faire. Voilà. Il n'y a pas de plat que je n'ai pas envie de faire ou que je ne peux pas faire. Il y a des plats que je n'ai pas envie de me déformer et de déformer le plat non plus. Donc, je ne fais pas. Ça ne me correspond pas. Donc, voilà. Par exemple, je voulais sortir une nouvelle recette pour aujourd'hui. Ben, je n'ai pas trouvé parce que je n'ai pas les éléments pour faire une recette découverte. Je réfléchissais l'autre jour à un plat fumé, par exemple. Et puis je me suis dit, c'est vrai que pourquoi aujourd'hui on veut faire toujours des plats fumés? Et je me suis dit, mais la cuisine au Moyen-Âge, elle était forcément fumée, puisque tout se faisait à la cheminée. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'allais chez une tante, la tante Anna, et elle faisait la cuisine qu'à l'âtre. Elle n'avait pas autre chose que la cheminée. Et effectivement, quand je mangeais chez elle, des fois, comme j'étais petit, ça me gênait. Parce que l'œuf fait à l'âtre, ce n'était pas comme l'œuf de ma maman qui était fait sur la cuisinière à bois. Elle était faite avec le feu autour, et ça avait un goût de fumée. Et ça me gênait beaucoup. Et finalement, après, avec le temps, je m'y suis habitué. Mais la cuisine comme ça, c'est une cuisine qui est finalement beaucoup plus naturelle. Alors, c'est là que ça doit avoir le goût. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas l'habitude de mettre du fumage dans ma cuisine. Mais peut-être que c'est une très bonne idée de mettre du fumage dans la cuisine. Mais pour moi, ce n'est pas un trait de cuisine. Parce que normalement, la cuisine fumée, pour moi, c'est dans le feu.
Dans le feu, tout à fait. Alors donc, il faut avoir aussi l'inspiration. Mais c'est comme en musique.
Voilà.
Des fois, tu n'as pas l'inspiration.
Voilà, des fois, tu n'as pas l'inspiration. Tu as la tête vide. Et plus tu vieillis, plus tu as la tête vide, d'ailleurs.
Est-ce qu'il est arrivé qu'il y ait des clients qui n'aiment pas ce que tu fais?
Bien sûr. Mais ils ne l'aiment pas pour une bonne raison. Hein. Je peux avoir loupé mon plat aussi. Hein. S'ils ne l'aiment pas, c'est parce que j'ai loupé mon plat. Normalement, c'est pas fait pour la cuisine, c'est pas fait pour ne pas être aimé. S'il y a tous les éléments pour que ce soit bon, ça doit pas être loupé. Mais ça peut arriver qu'un plat, on le loupe parce qu'on n'est que des humains. Hein. L'autre jour, j'avais fait un cassoulet, je fais tous les cassoulets pareil, et puis il y avait un cassoulet qui était plus sec que d'habitude. Pourquoi ? Parce que peut-être quand j'ai mis le jus, je n'en avais pas mis assez. Et voilà, dans mon plat, ou alors parce qu'il a confit trop longtemps dans le four, puisque je passe 3 heures, si c'est 3h30, peut-être qu'il était trop confit. Le haricot était bien gonflé, il avait bien pris le goût de la viande, mais pour le client, il était un peu sec. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je m'en excuse, mais parce que le client, il prend pas le temps d'analyser les choses. Nous, oui, mais pas le client. Et il n'est pas là pour ça.
Est-ce que dans ta famille, quelqu'un t'a influencé pour faire la cuisine ? Alors, parce qu'on dit toujours que la meilleure cuisine, c'est celle de sa maman.
Oui, bien sûr, oui. Moi, à la base, c'est ça, puisque je suis fils de maçon et mon père voulait pas que je fasse de la cuisine. Il voulait que je sois comme tout le monde, que j'ai un métier dur, qui me cale les mains. Et voilà. Et puis, à 8 ans, j'ai dit à ma mère, avec qui j'avais beaucoup d'affection, et que je voyais faire la cuisine, que j'y pensais tout le temps, en fait. Et donc, un jour, j'ai dit, ben, tu sais, quand je serai grand, je serai cuisinier, et j'aurai mon restaurant, à 8 ans. Et à partir de là, j'ai jamais changé d'avis. J'ai jamais changé d'avis. Mon père était un homme dur, qui voulait pas que je fasse la cuisine, mais j'ai quand même fait ça.
Pourquoi faire la cuisine ? C'était un peu trop féminin ?
Ah ben oui, forcément. À la campagne, c'est trop féminin de faire la cuisine. Alors que, normalement, non. Parce que, en fait, au Moyen-Âge, les hommes, c'était les hommes qui faisaient la cuisine. C'était pas Taïwan, c'était un cuisinier, hein, c'était un homme. Et dans le ménager, par exemple, c'est l'homme qui explique à la femme comment elle doit faire la cuisine. Donc, en définitive, souvent les femmes sont les ouvrières de la cuisine. Elles sont ouvrières de la cuisine parce qu'elles faisaient, je ne parle plus aujourd'hui, hein, mais quoi qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes font de la cuisine chez eux, mais elles faisaient la cuisine pour leur mari. Donc, la cuisine de femme est toujours beaucoup plus virile que la cuisine de l'homme. Parce qu'elles font de la cuisine pour leur mari, et le mari, s'il n'y a pas le poivre qu'il faut, s'il n'y a pas ce qu'il faut, il faut lui faire une cuisine virile, parce que la femme, elle se l'idéalise comme ça, son mari. Donc, en définitive, moi, je trouvais que la cuisine de ma mère était très virile. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi mon père, il trouvait que c'était pas... Il y avait toujours ce qu'il fallait, de poivre, il y avait toujours ce qu'il fallait, de sel. Et donc, il y avait ce qui me plaisait dans l'acte que faisait ma mère, c'est pas simplement la cuisine, c'était la finalité. C'est-à-dire le bonheur qu'elle donnait aux autres. Et pourquoi j'ai voulu faire de la cuisine ? Pour donner du bonheur aux autres comme elle le faisait. On était 5 enfants. Moi, j'étais au bout de la table. J'étais le dernier, donc je faisais face à mon père. Donc j'avais intérêt à me tenir à table. Et maman, elle était juste à côté de moi. Et alors, elle faisait la cuisine en même temps qu'elle mangeait. Et elle mangeait pas beaucoup, finalement. Parce qu'elle passait son temps assise sur une fesse à regarder ses enfants manger. Et c'était le bonheur, parce que dans ses yeux, c'était le ravissement de voir toute sa famille en train de se nourrir de ce qu'elle avait fait. Et moi qui regardais ça avec mes yeux d'enfant, je me suis dit, mais quel bonheur il y a de voir les autres se régaler de ce qu'on a fait. Aussi bien un maçon, il regarde la maison, à la fin, d'ailleurs on met toujours un sapin à la fin de la maison, pour la rendre encore plus jolie à regarder, parce qu'on la regarde de loin, on voit le sapin, on voit tout, et le maçon, il est content des pierres qu'il a posées. C'est... Le bonheur de travailler, c'est le bonheur du travail bien fait. Et aujourd'hui, si les gens sont peut-être si malheureux, c'est parce que justement, ils n'ont plus ce désir de donner aux autres le travail, et leur œuvre et leur labeur.
C'est peut-être aussi parce qu'on ne leur donne pas de plaisir à travailler.
C'est peut-être aussi parce qu'on ne leur donne pas du plaisir à travailler. Ça, c'est un fait. C'est parce qu'aujourd'hui, on a déformé le véritable acte du travail. On l'a déformé. On en a fait peut-être quelque chose de forcé. On a choisi le mauvais mot pour dire qu'il ne faudrait pas dire travailler. D'abord, moi, je considère que quand tu fais un métier que tu aimes, tu ne travailles pas.
Voilà, c'est comme disait Confucius, c'est ça. Parce que je vois, par exemple, le monsieur et la jeune fille qui travaillent avec toi, ils sont partis tout à l'heure, après le repas, enchantés d'avoir fait ce qu'ils avaient fait et le bonheur de bosser avec toi. Exactement. Si tu étais un patron abruti et méchant, ben, y aurait déjà beaucoup moins de plaisir à travailler.
Et je connaissais un patron très gentil. J'étais jeune, je n'ai pas peut-être tout de suite compris ce qu'il me disait, mais il me disait, tu sais, en fait, il n'y a pas de mauvais ouvriers, il n'y a que de mauvais patrons. Et lui, il était patron.
Donc, je trouve ça super, ça. Voilà, ouais. Voilà. Mais c'est un peu pareil en politique, je suppose.
C'est pareil en politique, c'est certainement pareil en politique, mais c'est effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait effacer aujourd'hui et revenir à des fondamentaux. Je pense que dans l'esprit de social de notre société, si aujourd'hui Jean Jaurès revenait, il dirait quelle catastrophe il s'est passé entre ce que je voulais dire et ce qu'on a compris. Voilà. Mais ça serait pareil Karl Marx. Hein. Certainement. Parce qu'on est passé à côté des bonnes explications. En fait, on a pris le temps de convaincre sans avoir cherché vraiment à comprendre le message.
Qu'est-ce que tu penses de la cuisine moléculaire ?
Ça existe encore ?
Et oui, à Top Chef, on le voit.
Mais la cuisine, c'est toujours moléculaire, de toute façon. Tout est moléculaire. Tu fais une mayonnaise, c'est moléculaire. Hein. Oui. C'est l'association des molécules et toutes ces compositions d'une sauce, c'est moléculaire. Quand tu fais une sauce saupiquée, c'est de la cuisine moléculaire. C'est à lier les molécules entre elles pour arriver à une composition soit plus onctueuse, soit plus savoureuse, soit, voilà. Et on mêle les saveurs toutes ensemble. Donc, moléculaire. Dans ce qui est l'utilisation, donc, de produits pour arriver à des fins qu'on ne pouvait pas imaginer, mais c'est autrefois, prendre une sauce, y mettre du xanthane et pouvoir la lier aussi bien à froid qu'à chaud, bah, c'est pas très intéressant.
Il n'y a pas un petit snobisme là-dedans, un petit peu ?
Bon, je me permettrai pas de juger ceux qui utilisent ce système-là. S'ils ont les clients pour le faire et si eux, ils y prennent du plaisir, il n'y a aucun souci. Après, moi, personnellement, j'y prendrai pas de plaisir.
Qu'est-ce que tu penses de la cuisine dans l'époque de Gargantua ?
Mais l'époque, c'est un petit peu, nous, ça touche un peu au ménager, ça touche un peu. Ben, c'est Gargantua, lui, voilà, c'est de la cuisine pour le bonheur de cuisiner. Bon, aujourd'hui, on ne pourrait plus parce que certainement que les estomacs ne sont plus adaptés à la cuisine gargantuesque. Mais c'était extraordinaire parce que, en fait, tu avais l'impression qu'il créait des choses juste pour le bonheur des autres. Quoi. Et ça, c'est beau, quoi. Enfin, je trouve. Disons que l'esprit de la cuisine, elle doit être en adéquation avec l'esprit de Gargantua. Après.
D'ailleurs, il y avait Grand Gosier qui était avec lui. Ouais, Grand Gosier.
Exactement. Et donc, et puis même, il y a eu toute une. En fait, on a découvert, quand on lit le livre d'Alexandre Dumas, on a découvert des choses encore qui ont trait à l'époque de Gargantua. Et je trouve que ça, voilà, c'est les fondements de la cuisine en général. Et ça restera toujours les fondements de la cuisine, quoi qu'on fasse.
Qui a inventé la cuisine ?
Alors, ça, c'est difficile, en fait. La cuisine, laquelle ? Parce que quand on a commencé à faire les cuissons, il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Les Romains faisaient... Celui qui a voulu bien manger, qui a commencé à vouloir bien manger, il a inventé la cuisine en partant de produits simples. Bon, déjà, les hommes préhistoriques... Et il faisait quand même quelquefois de la cuisine, puisqu'il faisait griller des huîtres, et il faisait des soupes. C'est quand même le premier, c'est un homme préhistorique qui a inventé l'idée de faire la soupe dans la terre. La première soupe, elle a été faite dans de la terre glaise et échauffée avec des pierres chaudes. Donc le souci, je pense que ça part avec l'évolution de l'homme, et en même temps qu'il est devenu ce que l'on est, je crois que petit à petit, il a voulu se faire plaisir. La notion de plaisir, elle a inventé la cuisine. C'est le besoin qui a inventé la cuisine. C'est le besoin d'avoir du plaisir à manger.
C'est la différence entre manger et prendre du plaisir à manger.
Voilà, exactement. C'est la différence entre manger, parce que manger, on peut se nourrir.
C'est-à-dire se nourrir.
Voilà, se nourrir et prendre du plaisir à manger, c'est deux choses différentes.
Est-ce que toi, tu prends du plaisir à manger? Surtout quand tu as bossé toute la journée à cuisiner.
Oui, j'ai toujours eu, malheureusement, j'ai toujours plaisir à manger. Mais bon, c'est normal. Je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas du plaisir à manger à la base. C'est obligé.
Alors, on va faire venir Valérie. Valérie, donc, c'est ta patronne.
Oui, c'est ma patronne.
Et en plus, ton épouse.
C'est pour ça que je suis libre de pouvoir dire du mal des patrons, maintenant.
Alors, la patronne, est-ce que ton employé fait bien la bouffe?
Ah oui, je suis ravie. Gérard, il s'épanouit, quoi. C'est ça le plus important. C'est qu'il n'y a pas de rapport patron-salarié. Ou c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de partager, d'échanger, et puis d'être satisfait de ce que l'on fait, de vivre de sa flamme et de sa passion. C'est ça, pour moi, le plus important.
Est-ce qu'on peut, quand on est en couple, comme ça, partager la même passion?
Ah oui, oui, oui. Nous, on s'est rencontrés un peu sur le tard. Hein. On avait chacun fait démarrer une vie et fait des enfants, respectivement. Et oui, on va sur les mêmes lignes directrices. On a les mêmes projets, on a les mêmes émotions. Et ça, c'est très agréable parce que un peut remonter un petit peu le moral de l'autre. Il y a de la compréhension. C'est toute une alchimie, toute une harmonie qui règne, quoi.
C'est un peu c'est comme la cuisine moléculaire, c'est une alchimie. Est-ce que des fois, quand vous faites une recette, toi, tu peux apporter à ton cuisinier ou l'inverse?
Oui, je peux apporter un avis ou le ressentir. Après, c'est beaucoup de Gérard, il le vit beaucoup dans ses créations de recettes. Il vit beaucoup les choses, les associations de saveurs et les cuissons. Et il peut se projeter pour voir ce que ça va, comment ça va aboutir. Après, oui, je peux donner mon petit avis sur un goût, une sensation que je peux ressentir. Oui, bien sûr.
Tu es critique, oui. Oui, critique, bien sûr.
Être critique, ça dépend. C'est critiquer. Il y a une différence entre être critique et critique.
Dans le sens où, quand même, elle ne le dit pas, mais elle est quand même très bonne cuisinière. Donc, son avis m'intéresse, quoi. En premier lieu, d'abord, c'est la première qui goûte, quand même. On parle.
C'est elle qui goûte en premier?
Ben oui, quand même. Je l'appelle, je dis, tu goûtes, et voilà. Alors, des fois, elle n'a pas le temps, ça m'énerve si elle goûte pas. Parce que c'est quand même une cuisinière à la base, c'est une excellente cuisinière. Elle a quand même travaillé à la Tour d'Argent, elle a fait des superbes maisons, le Carré des Feuillants et tout ça. Bon, et puis elle a une maman, le point commun avec moi, c'est qu'elle a une maman qui cuisine très bien aussi. À la base, c'est ça.
D'accord. C'est quand même tous ces gens qui sont cuisiniers, au départ, ça part de la maman quand même.
Bien sûr.
Oui, ça part des repas de famille, ça part de la convivialité, de réaliser quelque chose et de le faire partager, quoi. Que ce soit un plaisir autour d'un bon plat, c'est toujours une grande satisfaction.
Est-ce qu'il vous est arrivé tous les deux de manger que tous les deux et de prendre vraiment, prendre un pied extraordinaire en mangeant?
Oui, bien sûr.
Même des fois avec un plat de pâtes dans lequel on a tombé des truffes, comme hier.
Il y avait des petits cailloux.
Il y avait des petits cailloux noirs. Mais non, mais même pour un plat simple, mais c'est tout le temps. Et c'est chacun son tour qu'on passe au fourneau pour nous deux. Il n'y a pas de souci. Ça va être un plat cuisiné. L'autre jour, elle a fait une soupe, c'était à tomber, quoi. Je veux dire, elle était extraordinaire. Des fois, elle me régale vraiment, quoi.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur. Tellement qu'il boit, et tellement qu'il a bu, qu'il fait rien de ses 10 doigts, et lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve maintenant. matin dans l'église qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques. Quelle belle Russie, quel œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville. Et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On trie. Et puis, il y a les autres. La mère, qui ne dit rien, bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide, et ça fait des grands cris, et ça fait des grands cris. Et puis elle est toute vieille, qui en finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qu'elle oseille, qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne compte. On compte. Et puis, il y a Frida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que ma chaîne Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas. Parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué un chat. Ou alors il y a longtemps, bien j'ai oublié. Oui, ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas. Ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, monsieur, alors pour un instant, alors moi, je la crois. Pour un instant seulement, monsieur, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On s'en va pas. Mais il est tard. Faut que je rentre. Chez moi.
Vous
Voilà, c'est la fin de la première partie de cette émission consacrée aux ménagiers à Castelnau de Montmiral chez Gérard et Valérie Garrigue. Très vite, la deuxième partie encore plus intéressante. Ciao.